Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma, nous sommes le mercredi 15 octobre 2014. Aujourd'hui c'est l'émission du temps plein, alors déjà on va dire qui est avec nous en studio.
Olivia.
Salut Olivia.
Iliana.
Iliana qui est là pour la première fois, bienvenue à la radio Iliana.
Merci.
Tu as quel âge ?
19 ans.
19 ans, ok, alors bienvenue à Radio Emma.
Louis.
Ok.
Ornella.
Salut Ornella.
Et Abélia.
Abélia. Salut, et présente-toi aussi avec nous l'infirmier.
Stéphane.
Oui, mais tu peux dire bonjour. Hein.
Bonjour.
Les infirmiers sont très à l'aise devant le micro, effectivement, toujours. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, une émission un peu particulière, parce que nous avons la grande, l'immense joie, j'ai envie de dire, de recevoir un invité aujourd'hui avec nous et de Marc, puisqu'il s'agit de Florent Silve. Bonjour.
Bonjour Mika. Et bonjour à toutes et tous.
Alors Florent, bienvenue à Radio Emma déjà. Et dis-nous ce que tu fais dans la vie.
Alors, je suis musicien, contrebassiste, bassiste et aussi cuisinier. J'ai deux métiers.
Alors, en fait, Florent va tout nous raconter sur son adolescence, son parcours, sa vie, etc. Mais avant ça, j'aimerais bien vous faire écouter un petit peu de musique et notamment celle que faite par une adolescente qui est présente parmi nous aujourd'hui, Ornella, qui a enregistré en studio la semaine dernière « Stay » de Rihanna. Alors, vite fait, tu peux nous dire ton expérience sur l'enregistrement de cette chanson ?
Ben, je me suis sentie dans mon élément.
Wow.
En deux mots, voilà.
Exactement. C'est bref, mais au moins c'est précis. Et puis, je crois que tout est dit. Donc, on t'écoute. C'est Stay de Rihanna, repris par Ornella.
I threw my hands in the air, said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me, now tell me, now tell me, now you know. Not really sure how to feel about this. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Not really sure how to feel about this. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Funny how the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about this. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. takes me all the way. I want you to stay.
Bon, eh bien, voilà, bravo, bravo, on est là. Hein. Alors, ça fait quoi de s'entendre ?
Bizarre.
Bon, et les autres ?
Elles chantent très bien, je trouve.
Elles se gavent.
Ah oui, c'était super génial.
Wow.
J'aime trop sa voix un petit peu cassée. Là.
Un c'est petit peu mignon. Cassée comme ça. Bon, et l'oreille du musicien, là, du coup ?
Écoute, j'ai dit qu'elle continue vraiment, quoi. Il y a... Surtout, apparemment, il n'y a même pas de cours. Enfin, c'est comme ça.
Et ouais, et ouais. Un autodidacte.
Un autodidacte. Quelque chose que je connais très bien.
Alors justement, bah on va un peu commencer avec ça. Effectivement, bon, bravo en tout cas, on est là, c'est super. Nous, on est très fiers de toi. Mmh. On va commencer avec les premières questions. Abélia, on t'écoute effectivement sur le parcours de Florent.
Quel genre d'ado étiez-vous ?
Alors, je crois que j'étais un ado un petit peu rebelle, en fait. Pré-ado, en fait. J'ai commencé très tôt. Je crois que vers 13 ans...
Ça commence à 13 ans l'adolescence.
Ah ouais, 13 ans, t'es déjà 13 ado.
Déjà un ado.
Ah ouais, c'est un problème.
Pour les gars, plus, non ?
Ah.
Pour les filles, oui, les gars sont toujours en retard. Et les gars sont toujours un peu en retard, 15 ans, 16 ans. Moi, j'ai commencé plutôt vers 13 ans.
Après, voilà. Ah,
ça peut. En effet. Alors, donc, pour résumer un petit peu les conditions familiales dans lesquelles j'étais, on était cinq frères et sœurs. Et ma maman était toute seule pour s'occuper de nous. Donc on était un peu livrés à nous-mêmes. C'était pas facile pour elle déjà de travailler, de nous faire manger, s'occuper de la maison, etc. Donc nous, on a été vraiment livrés à nous-mêmes. Et donc du coup, j'ai eu 2 années un petit peu chaotiques. Redoubler la quatrième, etc. C'était un petit peu compliqué. Et je tombais dans j'aurais pu aller dans des voies qui n'étaient pas très sympas. Mais j'ai eu un petit éclair comme ça à un moment donné en troisième et je me suis dit, bon, il faut reprendre la barre un petit peu, sinon je vais dans le mur. Et donc j'ai eu une période de l'adolescence un peu compliquée. Ça n'a pas empêché ensuite de continuer, mais j'ai arrêté l'école assez vite en fait. En troisième, j'ai pris une voie professionnelle en gros, parce que les cours ça ne m'intéressait pas. C'était vraiment... Je savais très bien que c'était pas pour moi. Et donc, en troisième, j'ai pris l'option d'une voie professionnelle qui était la cuisine, qui est aussi maintenant toujours mon métier. Et voilà. Mais sinon, entre 13 et 15 ans, ça a été très compliqué.
Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir la cuisine ?
Alors, qu'est-ce qui m'a fait... Alors, quand tu es en troisième, on te donne à la fin de la troisième, alors il y a 25 ans de ça, c'était un petit peu moins ouvert au niveau éducatif, tu avais moins de choix, mais on te donnait une liste de métiers. En gros. Et donc, tu devais choisir dans ta liste de métiers. Et dans les 20 métiers qu'on te proposait, la cuisine m'a fait tilt tout de suite. Parce que j'ai grandi avec, entre 0 et 6 ans avec ma grand-mère, ma grande-tante, ma tante, plein de femmes autour de moi. J'ai passé toute ma jeunesse dans la cuisine, en fait. Dans les jupes des grands-mères en train de... Comme ils avaient un grand potager, un jardin... J'ai passé toute cette enfance autour de la culture gastronomique, culinaire et gastronomique, parce qu'il y avait quand même, ma grande-tante était, et ma grand-mère étaient super fortes en cuisine. Et donc j'étais nourri et bercé par ça. Et ce qui, je n'avais jamais vraiment pensé, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais la cuisine, mais oui, ça fait partie de ma vie. Et je crois que c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie tout le temps, parce que c'est très important de bien manger, de savoir cuisiner, de pas être libre de ce qu'on mange, en fait, du choix, et pas qu'on nous impose ce qu'on doit manger. Et ça fait partie vraiment d'un équilibre de vie constant. Et donc c'était ce choix-là, c'était comme un petit flash comme ça de me dire, mais ça fait partie de ma vie, c'est ça. C'était ça beaucoup plus que les autres métiers qui m'étaient proposés, en fait.
Eh bien, ça vous évoque quelque chose, les uns ou les autres ?
Ça vous parle ? Vous aimez la cuisine ? Vous aimez manger ? Vas-y.
Non, mais c'est bien, des hommes qui font la cuisine. Il y en a pas beaucoup, donc il en faut quand même.
C'est déjà
quoique,
pas mal.
Il y en a pas mal, il y en a pas mal quand même. Des hommes
de
qui font la cuisine.
Oui, c'est vrai, il y en a de plus en plus. Ouais.
Et ça s'ouvre de plus en plus, c'est vrai.
Pour situer un petit peu géographiquement, tu es né où et tu as grandi où?
Alors, je suis né à Marseille, en plein centre. Et ensuite, à 6 mois, je me suis retrouvé avec mes grands-parents, parce que ma mère a dû déménager à Sète. Vous connaissez Sète, c'est une petite ville à côté de Montpellier. Et alors, comme elle était débordée, moi j'avais 6 mois, elle s'est retrouvée seule. Et elle avait déjà mes 3 autres frères et ma sœur. Elle m'a laissé à mes grands-parents, en fait, et une grande tante qui sont occupés de moi jusqu'à 6 ans.
À 7
Non, alors c'était...
Le mec aime bien brouiller les pistes de 6 à 7.
Ouais, c'était compliqué. Entre 0 et 6 mois, je passais à Marseille. Entre 6 mois et 6 ans, à Coursens, un tout petit village entre Béziers et Narbonne.
D'accord.
Oui, parle comme ça. C'est un peu la, c'est un peu la campagne que les viticulteurs. C'est très, très beau village. J'ai grandi dans les jardins, tout ça. C'était très joli. Et après, à 6 ans, je suis revenu avec ma maman à 7.
D'accord.
Et je suis resté jusqu'à 18 ans.
Waouh, d'accord. Ouais. Et au niveau des traditions culinaires, en fait, elles viennent d'où?
Ah, oh, c'est la Méditerranée.
Ouais, c'est ça.
C'est méditerranéen, famille du Sud, de toute façon. Et très français, quand même.
Ouais, provençal, quoi.
Provençal, voilà, on va dire. Provençal et catalan.
Mmh.
Et comme j'ai une partie de ma famille qui est dans l'Aveyron, alors là aussi, voilà.
On s'amuse.
On reste dans la gastronomie du Sud.
Il y en a qui cuisinent parmi vous, un petit peu?
Un petit peu. Vraiment?
Avant.
Avant?
Moi, oui.
T'aimes bien faire quoi, Ornella?
À tout, tant que c'est de la bouffe.
D'accord.
C'est quand je m'ennuie, j'essaye de tuer le temps, comme on dit.
En cuisinant.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que dit Florent, ça te parle quand il parle des saveurs, des mélanges, de grandir là-dedans
Enfin, ma mère, tout le temps, je l'aide à cuisiner, enfin, je fais des trucs avec elle, donc c'est à peu près pareil.
Ouais, c'est l'environnement. L'environnement est le même.
C'est
quelqu'un qui te donne envie, en fait, c'est de regarder quelqu'un faire de la cuisine. Après, l'environnement, que tu grandisses dans une maison, un appartement, un jardin, ça, c'est pas très important. L'important, c'est la personne que tu vois cuisiner.
Moi, c'était mon père qui me donnait envie de cuisiner tout le temps.
C'est vrai?
Ouais, il cuisinait beaucoup et très, très bien.
Ah oui?
Ouais.
Et est-ce que tu l'assistais dans le
la préparation? Ben ouais, j'ai découpé des tomates, des trucs comme ça. Bon, j'étais petite, mais ouais, j'aimais bien le regarder couper les trucs et tout. Je trouvais que c'était joli.
Ah, c'est beau ce que tu dis. Et alors du coup, c'est marrant parce que c'est un repère masculin aussi sur la cuisine, comme quoi.
Ben, ma mère, elle cuisine bien, mais mon père, il cuisinait très très bien.
Ah oui?
Ouais, il faisait souvent la cuisine du coup, donc...
D'accord.
Voilà.
Et depuis, ça te donne un peu envie de cuisiner ou...
Bah, des fois, j'essaye. Je suis plus gâteau, en fait.
Pâtisserie.
Oui, parce que j'ai essayé de faire une bolognaise, j'ai tout raté. J'ai mis une tomate entière dans la casserole.
Comme ça?
Oui, je ne l'ai pas coupée. J'ai attendu, ça faisait rien. Donc, je suis plus forte en sucré.
C'est pas mal.
Moi aussi, ma mère, elle m'apprend à cuisiner. Donc, tous les matins, je me lave à 10h30. Je déjeune tranquille. Et après, on s'attaque au fourneau. Mais je suis pareil, plus pâtisserie aussi, en fait. Voilà.
D'accord. Mais ça fait un peu presque très organisé.
Tout à fait.
D'accord. OK. Bon, maintenant on va passer à la deuxième question. On est là si tu veux bien la dire.
Alors, est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours professionnel?
Ben, on va dire que oui, parce que déjà la cuisine m'a amené à avoir un métier très vite. C'est-à-dire à 18 ans, moi mon envie c'était quand même de quitter la maison pour soulager un peu ma mère qui en avait eu 5 déjà. Et donc, je voulais être indépendant, actif et travailler tout de suite. Donc, c'est vrai que la cuisine m'a amené vers cette dépendance et autonomie. Donc, j'ai pu travailler à l'âge de 18 ans tout de suite, faire des saisons et puis devenir un adulte autonome et dépendant. Et donc, ça a joué...
Et indépendant.
Et j'ai dit dépendant.
Oui, beaucoup.
Beau lapsus.
C'est très intéressant. Parce qu'il y a cuisine et dépendance, hein, si tu veux,
cuisine
la pièce,
il
n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est cuisine et indépendance, si je comprends bien.
Absolument. Et de ce côté-là, oui, ça a influé mon choix de vie. Après, dans la musique, c'est autre chose. Ça n'a pas agi vraiment sur la musique. Parce que la musique est arrivée plus tard dans ma vie.
Bah, ça va être la question d'après, justement. Je voudrais préciser en fait une petite chose, c'est que parmi la musique en fait que pratique Florent, il fait partie du groupe Benabar, qui est donc un groupe que je crois que tout le monde connaît ici, quand même. Et du coup, tu nous raconteras un peu quand tu l'as rencontré et depuis combien de temps vous collaborez ensemble maintenant. Mais tout d'abord, on va écouter une chanson justement qui reflète pas mal votre collaboration. Ça s'appelle Les Deux Chiens. Je vous laisse écouter ça. On en reparle après, puis après on s'embarque sur la voile de la musique. Pour l'instant, Les Deux Chiens.
Qu'est-ce qu'il a, ce petit chien ? A provoqué ce gros chien. Il sautille, il aboie, mais il ne fait pas le poids. Il grogne de toutes ses dents, sauf qu'il n'est pas de taille. Il a beau prendre son air méchant, le gros chien, il baille, baille. Le gros chien, il baille. Un petit chien contre un bulldog, c'est au mieux du suicide ou les effets d'une drogue. Dans les deux cas, c'est stupide. Il s'attaque à trop costaud. Ce petit chien est téméraire. Il finira de jouer les héros chez son vétérinaire. Chez son vétérinaire. Si l'autre s'énerve, il l'éclate, il le décalque, il le fume. Il suffirait d'un coup de patte pour l'envoyer sur la lune. Le petit manque pas de panache, le gros se prépare pour l'attaque. C'est vrai qu'il passerait pour un lâche, vu que l'autre lui met des petites claques. Des petites claques. Un tel acharnement s'explique, y a forcément une raison. D'ailleurs, ils s'aboient des trucs, mais je comprends pas, ils sont trop loin. Et d'ici, j'entends pas bien. Est-ce une rancune ancienne qui remonte à quand ils étaient chiots? À moins que ce soit à cause d'une chienne. Allez savoir avec les animaux. J'ai peur qu'ils ne s'entretuent, il faudrait que je m'interpose, mais ils sont déjà torse nus et se montrent leurs gencives roses. Les voilà prêts pour la bagarre, ils se défient du regard et se grognent des trucs sur leur mère. Que je peux pas répéter, c'est trop vulgaire. Miaou. Miaou. Un chat qui passe par là, d'un coup les réconcilie. Ils en oublient leur combat et se jettent à deux sur lui. Mort le chat. La morale, s'il en faut une, c'est plutôt un constat amer. La haine est la meilleure cause commune qui rapproche les ennemis d'hier. C'est une morale qui foule, morale en l'air. Morale en l'air. Morale en l'air.
Wouhou ! Les Deux Chiens par Benabar, accompagné par Florent. Bon ben voilà, comme ça on a de la vraie contrebasse là. C'est magnifique. Là, alors, bah justement, vas-y, Louis, pose donc ta question.
Alors, moi, je voulais vous demander comment on est arrivé à la musique, justement.
Alors, j'en suis arrivé, je vais dire petit à petit, parce que j'avais un frère qui était musicien de jazz et qui jouait de la guitare. Moi, j'étais pas du tout intéressé, mais il me faisait jouer. En fait, je l'accompagnais. Donc, il me montrait des accords à la guitare et puis je l'accompagnais. Lui, il faisait des choruses derrière. Des solos pendant des minutes et des minutes. Et donc, j'ai appris à jouer de la guitare comme ça. Mais voilà, c'était juste quand j'avais 17, 18 ans. Et lui a arrêté quelques années après. Et moi, vers 21 ans, je suis tombé amoureux des percussions, en fait. Donc, j'ai commencé à étudier les percussions tout seul, à jouer des congas. Je suis parti au Brésil pour apprendre tout ce qui était samba, la musique brésilienne. mais que la percussion en fait. Et puis je suis rentré dans un petit groupe à jouer, là j'habitais Paris à l'époque, je m'étais installé à Paris, et puis dans ce groupe à un moment donné il a manqué un bassiste, et puis on m'a dit mais tiens prends, comme je jouais un peu de la guitare et que la basse c'est un peu c'est une guitare à quatre cordes, quatre grosses cordes, je me suis retrouvé avec la basse, et puis je me suis, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai, à ce moment-là je me suis dit c'est mon instrument en fait. La position dans laquelle on se trouve avec cet instrument me convenait. C'est-à-dire que j'étais entre l'harmonie et le rythme, et la mélodie. Et comme j'ai passé toute ma jeunesse à écouter les autres, être un petit peu le confident à l'école, tu sais, toujours celui à qui on parle, à qui on se confie, et comme une espèce de médiateur, en fait. Je me suis toujours senti un petit peu comme ça. Et la basse, c'est un peu ce rôle-là, en fait. Tu es un peu médiateur entre le rythme, qui est la base de la musique, et la mélodie et l'harmonie qui sont au-dessus. Et la basse fait le lien entre tout ça. Et je me suis retrouvé un peu dans cette même position sociale, mais dans la musique. Et là, je me suis dit, c'est mon instrument. Et puis la sensation, le bas, le truc, boum, boum, ça m'a plu. Ça m'a bercé le ventre. Et j'ai choisi d'étudier cet instrument, mais à 21 ans, voilà. Et à 21 ans, j'ai fait une école. Et puis, alors après, comme tous les autodidactes, je crois, on a très faim, en fait, d'arriver très vite à un résultat. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pendant 2-3 ans, je n'ai fait que ça. Que de la musique chez moi, à travailler, en plus de l'école que je faisais, qui était une école privée que je m'étais payé, pour apprendre le jazz, parce que c'était plutôt la musique qui m'intéressait. Je me suis enfermé dans mon bocal et puis j'ai travaillé, et puis c'est venu assez vite. Je suis allé faire des concerts tout de suite, des petits concerts dans des bars, et puis ça s'est fait, voilà, ça a pris, mais je continue quand même toujours à travailler pour gagner ma vie, pour payer mon loyer et tout ça, pour manger. Je continue toujours la cuisine, et en parallèle j'ai appris la musique. Et j'ai appris... Alors, j'ai pas spécialement appris le solfège tout de suite. Je l'ai appris pour pouvoir communiquer plus, pour pouvoir écrire ce que je voulais faire passer aux autres. Et voilà. Alors, je suis jamais devenu un grand lecteur de musique, comme en musique classique où on te donne une partition et tu peux tout de suite jouer. Je suis un petit peu laborieux là-dessus. Si on me donne une partition, il faut que je gratte quand même un petit moment avant d'arriver à tout jouer, mais voilà, c'était pas le but d'arriver à ça, mais le but de me faire comprendre, en tout cas y comprendre les autres. Et après, bon, l'instrument, ça, de toute façon, il faut du temps, il faut tous les jours travailler pour arriver à des résultats. Et ça, de toute façon, tu es obligé d'y passer. Comme n'importe quel métier ou art, il faut apprendre les techniques et les mettre en pratique tous les jours, le plus souvent possible. En fait, faut pas passer de longues périodes sans jouer. Donc tu sais, toi, à la voix, ce qu'il te reste à faire.
Et au chant. C'est un conseil.
Travailler tous les jours un petit peu.
Tu travailles un petit peu, on est là, le chant, comment ça marche? Tu l'as étudié pendant un an, je crois.
J'ai fait un an de cours,
c'est
de
ça.
Chant.
Ouais.
Et juste en fait, ça. Moi, je déteste avoir des ordres. Donc je lui ai dit, j'arrête, ça me plaît pas. Elle me faisait apprendre des chansons alors que le style ne me convenait pas du tout. Je ne vivais pas la chanson, je la subissais.
Ouh.
Donc moi...
Mais tout ce qui était entraînement vocal, travail
vocal,
de la voix...
Oui, ça m'allait, ça. Mais c'était juste les ordres. Elle me disait, voilà, tu dois apprendre cette musique pour la semaine prochaine et pas une autre. Donc je la faisais, mais un peu...
À contre-cœur.
Voilà, c'est ça. Donc je préfère faire les choses...
Et est-ce que tu ne voudrais pas rencontrer une prof qui pourrait collaborer avec toi et te faire progresser ou...
Je connais une copine à moi qui est passée à Incroyable Talent et qui l'a gagné il y a 2 ans.
D'accord.
Marina Delmas.
D'accord, vous connaissez les autres?
Elle faisait du chant. Chose.
Moi, je ne suis pas très calée, donc je ne suis pas sûre de connaître. Mais...
Et en fait, sa prof de chant, elle travaille où je travaille.
D'accord.
Où je prenais des cours, pardon.
D'accord.
Et en fait, elle veut me rencontrer pour me faire travailler ma voix et tout.
Bon.
Donc voilà.
Et tu seras prête à travailler, comme
oui,
dit
non,
Florent,
mais là,
justement.
Oui, prête à bosser. S'il faut que je monte à Paris, je monte à Paris. S'il faut que j'arrête les cours, j'arrête les cours.
Mais pourras-tu en faire ton métier ou comment?
Le truc, c'est que quand je chante, je suis dans mon élément en fait. C'est comme Florent il disait, l'instrument, il avait l'impression d'être que c'était ce qui lui convenait. Ben, moi, c'est ce qui me convient.
Mm-hmm. Tu te sens à ta place, quoi.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. En gros, c'est ça.
Il faut en profiter. Si tu sens ouais. que c'est comme ça, profites-en et vas-y.
Eh ben.
Donc, je verrai bien où ça me mène.
Oh. Non, c'était bien, Mika, ta question de qu'elle trouve un professeur qui te convienne. Ça, oui. c'est très, très important. Même à l'école, parfois, on se dit, ah, ce prof, en fait, avec lui, j'avance pas. Mais c'est vrai que parfois, ça passe aussi par...
L'affectif.
Il y a un côté affectif. On peut pas le nier.
Ou la personnalité, la nature, la rencontre, quoi, en fait, avec quelqu'un.
Il y a des professeurs qui nous parlent moins, on entend moins leur discours. Mm. Mais après, il ne faut pas hésiter à chercher un professeur avec qui ça va passer et avec qui, justement, il va pouvoir comprendre ce que tu as envie de chanter, ce qui te fait plaisir, où tu vas pouvoir passer du temps sans que ça soit rébarbatif pour toi.
Ouais. J'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas, cette façon de travailler avec moi, ça ne me convenait pas.
Ça, on a compris, effectivement.
Donc... Ouais. Donc voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens ou artistes un petit peu dans cette...
Moi, j'ai fait 3 ans de piano.
Ça, d'accord. Mmh. Ok. Et alors, il y en a ?
Eh ben, apparemment, ça donne bien parce que j'ai souvent des compliments. Mais bon, après, ça fait longtemps aussi que je l'ai quitté, le piano. Hein. Mmh. J'en ai fait pendant 3 ans, mais ça fait 2 ans que j'en ai plus fait. Mais bon, je m'entraîne toujours un peu pour ne pas perdre. Et j'aime bien chanter aussi, mais je ne chante pas aussi bien qu'Ornella quand même.
Ouais, non, bah ça, de toute façon, après, c'est pas, il y a pas de, tu vois, de comparaison. Mais après, est-ce que ça te parle ce que dit Florence sur l'instrument et le rapport à l'instrument aussi, justement?
Ah oui, oui, bah c'est sûr, ça aide. Hein. On se dit, ah ben bah, ça, c'est pour moi. Forcément, après, on est motivé. Et moi, à chaque fois que je viens quand je vois un piano, j'ai qu'une envie, c'est de faire glisser mes doigts dessus.
Alors et toi Louis, tu avais l'air d'être assez intéressé qu'il y ait un musicien qui vienne ou alors le contrebassiste de Benabar, je sais pas ce qui toi te...
Ah bah moi c'est le fait que ce soit le contrebassiste enfin, que vous le connaissiez quoi et surtout que vous soyez connu, que...
ça
moi j'ai super excité.
Est-ce que t'as justement, je sais pas, une question par rapport à ça ou est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Ah bah je voulais savoir ce que ça faisait aussi de jouer auprès... auprès d'une célébrité comme ça et d'appartenir à un groupe.
Mm-hmm. Moi, je ne vois pas trop comme ça parce que du coup, ça va rebondir sur ta question, Mika, sur mon parcours. Moi, j'ai commencé à travailler avec Benabar au tout début, en fait, pratiquement au tout début, et sur Paris. Moi, j'avais déjà mon groupe, j'avais une formation, j'avais déjà fait un album, tout ça. Et alors ça s'est un peu croisé à la demande de notre manageuse qui connaissait sa manageuse à lui parce qu'il cherchait un contrebassiste, mais c'était le tout début, il y avait juste un album déjà de fait, et il cherchait donc un contrebassiste pour le deuxième album, mais c'était encore les petits bars, les petites salles à Paris, il n'était pas connu du tout. Mais alors, d'accord. C'était vraiment le tout début, un illustre inconnu, Benabar. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, on a fait l'album, et puis on a commencé à faire des concerts. Et en 2001, ça a un petit peu fonctionné pour lui grâce à Henri Salvador. Vous connaissez Henri Salvador?
Non, du tout.
Non.
Vous ne connaissez pas Henri Salvador?
Moi, ça me dit quelque chose.
Juanita Banana, tout ça.
Eh bien, moi, je connais.
Tu connais.
Moi, je crois que je connais aussi, ça me dit quelque chose.
Ouais.
Non, du tout.
C'est un grand personnage qui est décédé il y a quelques années. Et donc, il a entendu un morceau à la radio et il a décidé de le prendre en première partie. Vous savez, les premières parties de
dans
ses concerts. Sur toute sa tournée, il y avait donc 25-30 concerts dans toute la France. Et donc on a fait toutes ces premières parties, et puis là, le tapis s'est déroulé, et puis ça a marché pour Bruno, et ça a été 7 ans de travail non-stop, presque 7 ans de travail en continu, entre les albums, les promos, la tournée, album, promo, tournée. Donc de 2001 à 2008, ça a été vraiment une grosse période de travail et de succès pour lui, et pour nous on en a profité aussi. Alors du coup moi je ne le vois pas comme une star où on peut le voir de cette manière-là,
oui,
moi, c'est un ami et puis lui est très très fidèle dans en amitié et dans le travail aussi par rapport à ses musiciens et des gens avec qui il travaille depuis toujours et il a bien raison.
À vivre.
Il est très facile à vivre. Il a un sale caractère, mais très facile à vivre. Non, c'est quelqu'un de très honnête dans le travail et dans les rapports humains, tout ça. Il est très carré, très droit. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui.
Ça revient un petit peu à la question de Lou aussi. Qu'est-ce que ça fait de faire partie d'un groupe, justement? Alors,
c'est,
ou de ce groupe, je ne sais pas.
Alors, d'un groupe qui fonctionne à ce niveau-là, c'est oui, c'est que plaisant, évidemment, l'ego en est flatté, de faire des grandes scènes, des grands concerts, c'est que du plaisir, et parce que ça se passe en plus très bien avec toute l'équipe. On se connaît depuis, moi ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec lui, et il y en a certains, ça fait 17 ans, 18 ans, donc on se connaît, on est plus que des amis quoi, maintenant.
Ouais. Et vous tournez genre dans quelle salle, dans quelle ville, dans quel pays?
Alors maintenant, ça fait quand même quelques années où ce sont que des, ça a été que des zéniths. Alors après les petites salles, après toute cette période petite salle, on est passé tout de suite à des salles plus importantes. Et je dirais que les trois dernières grosses tournées, c'était que des zéniths, vraiment des grandes salles entre 3 et 7 000 personnes, plus les festivals qui vont de 20 000 à 100 000. Personne, ouais. Les plus gros festivals. Ah oui, c'est
vous avez joué devant 100 000 personnes?
Le top, c'est la Courneuve, 120 000.
Non.
Si, c'est énorme.
Ça vous arrivez à visualiser là ou pas?
C'est dur à visualiser même quand tu es devant. 120 000 personnes.
Ça paraît énorme, vraiment.
Un peu beaucoup.
C'est 30 fois la population de mon village.
Oui, c'est beaucoup. C'est pas stressant, toutes ces personnes, les yeux fixés sur vous, ça doit être super stressant quand même, non?
Alors, c'est très très stressant au début. Vraiment, tout début, que tu fais des gros concerts comme ça, c'est... Enfin, j'ai envie de dire, il faut... T'as le cœur, il bat très très vite. Au moment. Et puis, il faut pas que tu te manques, parce qu'il faut pas se rater, du tout. Un, pour le public... Deux, pour le chanteur, parce que tu l'accompagnes, donc lui aussi, il est en première ligne, c'est quand même sa carrière.
Après, ça déstabilise, après en plus.
Lui, si tu le mets en porte-à-faux, je pense pas qu'il te rappellera au deuxième concert. Donc tu as aussi cette pression d'être bon, c'est-à-dire il faut vraiment pas mettre une note à côté, faut être... Et puis, il faut tout donner, quoi. C'est, quand tu es sur scène, tu donnes tout, il faut que l'artiste aussi sente que derrière, bah, tout le monde met tout sur la table, quoi. Et puis il va sans... Il faut pas être réticent, pas de peur. Enfin, la peur, tu l'as, mais il faut pas la montrer, en tout cas. Et puis, il faut donner. Et puis, après, c'est un échange naturel. C'est-à-dire, les 10 premières minutes vont être... Enfin, on ne sait pas trop comment on va se placer, comment faire. Et puis, au bout de... Puis, le public rend ça automatiquement. Et puis, on se nourrit de ça et on a envie de donner. On prend, on donne. Et puis, voilà, c'est ce qui fait la magie du spectacle. C'est aussi ce que renvoie le public. Si on ne prend pas pour des imbéciles aussi. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment sincère avec le public. Je pense que les artistes qui ne sont pas sincères, ça ne fonctionne pas. Quoi. Ouais. Il faut être vraiment entier et puis s'y donner à fond. Quoi. Que ce soit pour un petit groupe et pour 20 personnes dans une salle de 20, ou que ce soit pour un grand groupe ou devant 70 000 personnes, c'est la même attitude. Il ne faut pas se dire oh, « je suis dans une petite salle, allez, vous avez 20 personnes ». En fait, 20 personnes, ça te fait 10 fois plus flipper que 70 000.
Et ça, pourquoi?
Parce que tu vois les yeux, tu vois le regard des gens.
Ah ouais.
Alors que 70 000 personnes, t'es une entité. En fait, tu vas dire c'est une grande personne, comme t'as une grosse masse devant toi qui
peut. Il y a tellement de gens que du coup on les voit même plus.
Alors faut pas l'énerver parce que quand ça fait ça t'as peur.
Oui, mais quand ça fait clap-clap.
Quand ça fait clap-clap, ah oui, c'est un grand clap-clap. Mais 20 personnes dans une petite salle, c'est encore plus. Vraiment, c'est encore plus d'impression qu'une grande salle.
Surtout que sur 20 personnes, s'il y en a 2 qui ne sont pas contentes, c'est plus embêtant que sur 70 000, s'il n'y en a que 2 qui ne sont pas contentes.
Ouais.
Quoi.
Absolument. Au niveau de la proportion, absolument.
Et puis dans les 20 personnes, il y a souvent ta maman ou...
Ton voisin, ta copine.
Les plus fidèles.
Les plus fidèles, voilà. À qui tu ne peux rien cacher, qui te connaissent par cœur. Ouais. Donc c'est, voilà, il y a ce côté intimité qui vraiment, là, le trac, c'est très, très présent à ce moment-là. La gestion des grandes salles et du grand public, c'est faut s'y faire. En fait, après, c'est le côté professionnel. C'est-à-dire qu'au bout du 10e, 15e, 20e festival, tu vas être un petit peu rodé. Tu sais comment te présenter, tu sais comment anticiper et voilà. Comment faire, en gros, pour être à l'aise aussi tout de suite.
Louis, ça t'évoque quoi, tout ça?
Ah bah, c'est... ça a l'air d'être une chouette histoire à vivre, franchement.
Ouais, c'est le bon moment à vivre. Mm. Mais il n'y a pas que ça de bien dans la vie, hein. Rassure.
Oui, oui, j'imagine.
Aller à la plage ou faire un bon petit crumble aux pommes, c'est bien aussi, hein, de autant de plaisir parfois.
Ouais.
Ou faire de la cuisine pour ses amis un soir et partager ces moments-là. Tu as aussi du bonheur là-dedans. Alors après, dans ce métier, en effet, c'est un métier où on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Et c'est vrai. Et c'est des bonnes tranches de vie, on va dire.
Après, ce n'est pas non plus un métier facile tout le temps et qui marche tout le temps non
oui,
plus. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ça ouais. reste un métier...
C'est des métiers à risque.
Ou les risques du métier.
Ou les risques du métier.
Comme dirait l'album de Ménabar. Bon, mais en tout cas, c'est passionnant tout ça. On reviendra tout à l'heure, on va écouter une petite chanson maintenant, mais on reviendra sur une chose que tu as dite que j'ai trouvée assez touchante, qui était que tu as été le confident de tout le monde et mm-hmm. que du coup, avec ta basse, tu as justement un peu reproduit tout ça en soutien. Mais alors, on va justement dire que dans la musique, il y a d'autres façons de faire de la contrebasse et parmi ces façons, ben, y a Truc à Trois, qui est un groupe, une autre formation à laquelle tu participes ou appartiens, je ne sais pas comment...
Oui, que j'ai même créé, en fait.
Bah, carrément créé, n'ayons pas...
Soyons clairs.
Donc, il n'y a pas que Benabar dans ton univers musical, justement.
Non, pas du tout.
Il y a aussi Truc à Trois, qui est un groupe plutôt marseillais.
Qui était un groupe, ouais, on va dire marseillais, parce qu'on s'est rencontrés... entre les deux autres protagonistes sont habités à Marseille. Il y en a un qui n'habite plus à Marseille, mais... C'est un groupe marseillais et qui parle de Marseille aussi beaucoup dans les chansons, dans
D'accord.
les textes.
Alors justement, c'est ce qu'on va écouter. On va écouter Ma Langue, une chanson. Donc ça veut dire ça parle beaucoup. C'est un peu du slam, presque.
C'est du slam.
C'est oui. carrément du slam. Hein. Là non plus, n'ayons pas peur des mots. Donc Truc à Trois, vous êtes trois évidemment. Et on écoute ça, ça s'appelle Ma Langue.
Quoi, ma langue? Qu'est-ce qu'elle a, ma langue? Elle a un cheval sur la langue qui laboure son champ lexical, micro-sillonne mes cordes vocales. Dans ce labo vocal, je mixe mes annales lors de bacchanal où le mot d'exil prend l'accent local. Tâche tendre en tâche d'encre, caraïbe en syllabe, je suis souvent resté bouche bée devant ma soupe en forme d'alphabet. Fallait crever l'abcès, fallait trouver l'accès au pied du mur, tout prendre au pied de la lettre, botter le cul de l'avoir au bénéfice de l'être. Aujourd'hui, je m'escrime le sabre au clair à faire du sable éclore de l'éphémère. Car dans ce désert de rimes, j'ai des désirs de mer. J'orthogirafe mon cou hors de la grammaire cantile. Fais du saut à l'élastique, des saltos linguistiques. Accroche, tisse des acrostiches, me laisse pousser les mystiches. Fossoyeur, cadavre exquis, convoyeur de mots valises. Je pompe ma prose aux lèvres d'une ville qui prend la pose. L'air d'un voyou au bras de mes voyelles. Je mastique les consonnes, m'achambulant jusqu'à ce qu'elles klaxonnent. Et le soir venu, la salive plein les bottes, je me rêve encore rimeur, bretteur, grand riposteur du tac au tac, comme l'était Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. C'est au panache du héros de Rostand que j'ai rallié mes couleurs, volant dans sa plume, lové dans ses volumes. Depuis, je fais les poches d'illustres alexandrins, picore les miettes qui tombent encore de sa main. En bord de Seine, je pêche à la ligne dans le flot des MC, comme les apôtres sur la barque du Messie. Dealer de rimes d'un cartel de mandoline, j'ai rejoint l'académie des maquis, tous traqués par une bande de molosses à la main leste, bons à asservir les masses ou à servir la messe. Mais quand ces polices de mauvais caractère montent sur leurs ergots, on leur claque le bec et dégaine nos argots. Car sous la pression, on prend parfois la mauvaise pente. Et si l'on presse ton attention, c'est pour pas presser la détente. Mon frère, souviens-toi que le jeu de la langue défie la loi de la jungle. Et le porte-voix désarme le porte-flingue. Le jeu de la langue défie la loi de la jungle. Et le porte-voix désarme le porte-flingue.
Bravo!
Yes.
C'était Ma Langue de Truc à Trois avec Louis-Noël Bobet comme chanteur, mm-hmm. qui fait aussi la guitare hein, sur ce groupe, c'est ça?
Oui, sur l'album, c'est moi qui les ai faites. Mais...
D'accord.